Bon, ben bonjour à tous, mes frères et sœurs.
On est déjà Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire la semaine passée. Là, on est rendu à...
Dans notre voyage.
Rendu à l'église des Sardes. Et puis, il nous manque encore deux églises, OK? Parce qu'on a sept cours, OK? Puis, cette église, ça tombe bien, là. Et aujourd'hui, on va étudier celle des Sardes. Le message, l'oracle, la lettre à l'église de Sardes. Comme on le voit toujours, c'est un message qui c'est Jésus même qui parle aux églises, même toute l'Apocalypse. C'est un message aux églises, ça commence par les églises de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Donc il reçoit cette commande là qui dit ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, il dit, à Éphèse, et voilà. Comment je peux dire ça là? En ordre, c'est sept églises en Apocalypse, en 11. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu la map là, OK? Vous voyez, ça a du sens, hein? ce parcours là, c'est logique, OK? Puis il monte d'Éphèse, Patmos est en bas, il monte Éphèse, on fait le tour, on est rendu là vraiment en Sardes, on revient là un peu. Après, les gens pouvaient retourner à Éphèse. Pourquoi c'est choisi comme ça, je ne sais pas. Mais probablement, l'apôtre Jean avait déjà un ministère auprès de ces églises-là. Donc, c'est pour ça qu'il envoie ce message, ces oracles, comme je dis, pour encourager les églises et aussi pour les exhorter. Okay? Et tous ces messages-là, c'est pour nous aussi. À la fin, on va voir. Et c'est aussi pour nous, à l'Église. Et il dit qu'il a envoyé ce message aux Églises. Donc, c'est-à-dire, comme je dis tantôt, et pardon, la semaine passée, tout le monde lit le courriel. On n'est pas rendu au courriel encore à l'époque, là. Tout le monde lit le courrier de tout le monde. OK? Parce que c'est adressé à Sardes, mais Sardes lit tous les messages qui ont été envoyés à toutes les Églises. Celui qui allait comment on appelle ça, aller lire, parce qu'il dit, béni, c'est lui qui lit et qui est ceux qui écoutent. Donc, probablement, il y avait quelqu'un qui lisait ce message-là aux églises. Et puis ça a fait le tour, pendant des années, ça a fait le tour, jusqu'à aujourd'hui même, on fait le tour, on lit ces lettres-là. Donc, voilà, et c'est du chapitre 2 au chapitre 3. Du dernier livre de la Bible, donc 2, 1 à 7, 2, 8 à 11, c'est ça, Pergame, Thyatire, on a vu la semaine passée, 18 à 29, et aujourd'hui, Sardes. On commence le chapitre 3, et on va finir, c'est sûr, avec l'église à la Odyssée, dans le chapitre 3 aussi. On finit le chapitre 3, puis le chapitre 4, là, il commence toutes les visions de l'Apocalypse. Peut-être un jour, du voulant, on va étudier le livre d'Apocalypse, on ne sait pas, mais c'est déjà une introduction, c'est déjà un aperçu de ce que le livre contient. C'est bon? Donc, aujourd'hui, on va faire juste un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine passée, vigilance, et sainteté, ce qui est demandé à l'Église de notre frère Célestin nous a enseigné la semaine passée. Donc, Thyatire nous rappelle l'importance de la sainteté. C'est sûr que, frères et sœurs, les thèmes reviennent toujours, hein, un peu. L'exhortation, ça revient toujours un peu. Les thèmes sont un peu croisés, OK? Mais il y a quand même toujours une nouveauté. Les sept messages, les sept oracles aux églises ne sont pas tous identiques, quoiqu'ils gardent aussi quand même un ordre, OK? Mais ils ne sont pas identiques. Il y a certaines choses là qui sont soit encouragées, soit découragées pour les églises, soit des choses que... des failles dans les églises, puis Jésus exhorte ces églises-là d'une manière quand même assez forte. Hein. Donc, Thyatire nous rappelle l'importance de la sainteté, mais fions-nous des compromis et des discours séduisants, on a vu ça la semaine passée. Restez fermes dans la foi que nous professons, ça c'est ce qui est écrit aussi dans Hébreux 4, 12, restez fermes dans notre foi, dans notre façon de vivre, dans notre foi en Dieu. Donc, notre foi doit être conséquence que la façon de notre conduite doit être conséquence que nous croyons. C'est ça, et nous croyons ce que la Bible dit, et tout ça, c'est notre manuel d'instruction, si on peut dire. OK, donc c'est ça, on doit vivre selon ce qui est écrit dans sa parole. Donc, C'est demander aussi fidélité et récompense, comme on le voit dans toutes les épîtres, il y a des récompenses. Et Jésus veille sur son Église, on a appris, rien ne lui est caché, rien. Il est le Fils de Dieu, il se présente au début à l'Église de Thyatira comme le Fils de Dieu. Notre exhortation, gardons ses commandements et rejetons les faux enseignements, encore là, ça revient sur les faux enseignements. De qui on a parlé ces faux enseignements la semaine passée, vous vous rappelez? Jézabel, c'est ça. Jézabel qui enseignait, hein, puis il détournait les chrétiens de la vérité. Jésus est, comment je peux dire, drastique là, dans ce qu'il dit. Là. Je lui ai donné le temps de se repentir, mais... ne se répandent pas. Donc, voici que je vais, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je vais faire tomber une maladie à ses enfants, à tous ceux qui suivent leurs enseignements. C'est ça, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Donc, c'est quand même sévère ce que Jésus parle à cette femme-là qui enseigne, il dit des choses qu'il ne doit pas enseigner, puis il fait tomber le peuple de Dieu. Donc, il dit, et rejetons les faux enseignements. Les vainqueurs régneront avec Christ, on a vu. Nous allons régner avec Christ. D'une certaine façon, nous régnons déjà avec Christ. Parce que, est-ce que Christ règne maintenant? Oui, il règne déjà. Et nous sommes encore tous ceux qui croient en Jésus, ont mis leur foi en Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais d'une certaine façon, nous régnons déjà. Okay, sauf que le royaume final accompli, c'est pas encore arrivé. Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Et il dit, les vainqueurs régneront avec Christ pour l'éternité. Un privilège pour nous, hein, comme chrétiens, qu'on va régner avec Christ. Et puis on a vu, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dans Hébreux 12, 14. Qu'est-ce que c'est la sanctification? On est saints, nous sommes saints comme... Oui, la Bible dit qu'on est saint. Et un saint doit pratiquer la sanctification. La sanctification, c'est un processus, hein, jusqu'à ce que nous allons rencontrer notre Sauveur quand il va revenir. Même le temps que Dieu nous permet, là. Après ça, il n'y a plus de sanctification. Okay, soit nous allons devant notre Dieu, dans sa présence, si nous mourons, si je meurs aujourd'hui, j'ai l'assurance que je vais aller voir, pas par mes mérites, mais mon Dieu. Puis, bon, je vais attendre aussi l'arrivée, la venue, le retour de notre Seigneur. J'aimerais juste dire quelque chose par rapport avant de rentrer dans ce qui est écrit à l'église de Sardes. Souvent, nous disons que les dieux de l'Ancien Testament, il est sévère. C'est vrai, non? Nous avons un peu cette idée quand nous voyons tout cela, surtout la rentrée du peuple d'Israël à des promises. Vous rappelez? Donc il y a toute une sorte de choses que Dieu même dit, vouées par interdit, ce qui c'est un peu la phrase, c'est-à-dire de raser toutes des peuples, des choses. Mais c'est Dieu qui commande ça, c'est pas les hommes, là. Et il faut s'en rappeler. Mais Dieu est sévère dans ses exigences, même à la loi aussi. Il demande aux gens, au peuple, d'obéir à la loi. Et souvent, j'entends même dire que bon, maintenant on est dans la période de la grâce. Donc, Jésus nous fait grâce. Il est plus, le Dieu de l'Ancien Testament est plus sévère, maintenant tout est bon. La vie est belle, la dolce vita, comme on dit. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. Et on le voit un peu à la manière, dans le dernier livre de la Bible, on dirait que c'est un rappel pour nous. On le voit ici, la sévérité. Qui parle de tout ça? Qui utilise des... Aujourd'hui, on va voir un message à l'église de Sardes assez fort, hein? OK? Puis, mais je ne dis pas que les autres, c'était pas fort, là, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de louange. Jésus ne loue pas cette église-là. Okay? Donc, c'est vraiment fort. Et pas seulement fort, ce que Jésus dit par rapport à l'église, mais et sur ce qu'ils pratiquent aussi, et les conséquences aussi. Donc, Dieu est le même. Oui, c'est vrai, on est dans la période de la grâce, la venue de Jésus, pour être sauvé, la foi en Jésus, par la foi au sacrifice de Jésus, ça, cela a changé, c'est la période de la grâce. Mais Dieu est aussi sévère dans ses exigences. Et Jésus l'est aussi, parce que Jésus est Dieu lui-même. Et puis, nous le voyons clairement. On dirait vraiment, quand vous lisez ça, au moins, du moins, les sept messages, les sept oracles aux églises, on dirait que je suis en train de lire un peu. Vous vous rappelez quand Dieu envoyait des oracles à son peuple par l'entremise des prophètes? Vous vous rappelez? Puis des fois, on entend des choses très sévères par rapport à Dieu. Mais on dirait qu'on est placé un peu dans le même, un peu dans le même style. Et puis c'est le dernier livre de la Bible. C'est comme un rappel que nous devons persévérer et nous devons obéir à ce que la parole de Dieu est dit, aux enseignements de Jésus, aux enseignements des apôtres. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais peut-être vous n'êtes pas d'accord. Bon, OK, donc... Je vous invite à pouvoir lire la Bible. Je ne dis pas qu'on ne vit pas dans un temps, comment je peux dire ça, là, différent que l'Ancien Testament. Oui, c'est différent. Nous sommes pardonnés maintenant, pour toujours. On n'a pas besoin des sacrifices comme le peuple d'Israël faisait à chaque fois. Il y a un seul sacrifice qui a suffi pour le pardon des péchés. OK? Puis nous pouvons être pardonnés à tous les jours aussi. Qu'est-ce qu'il dit, Jean? Il dit... Si tu as péché, confesse ton péché. Okay? Il est fidèle et juste pour pardonner et vous purifier de toute iniquité. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes sauvés, mais nous devons demander pardon à Dieu pour le péché que nous faisons maintenant. On n'est pas parfait, on n'est pas parfait, mais nous devons rejeter le péché. Donc, lisons la lettre à l'église de Sardes. Si vous avez votre Bible avec vous, allez-y. Et on peut lire à l'écran aussi ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'on lit? Écrit à l'ange de l'église de Sardes. On a dit que l'ange, c'est fortement le responsable. Ça peut être les anciens, ceux qui sont responsabilités à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Ça, le langage est pareil, hein? Le chapitre 1, il se présente aussi dans ce... Mais il choisit dans chaque lettre de se présenter différemment. Jésus dit, voici celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et imaginez lire ça, l'église de Sardes qui arrive, quelqu'un il dit, j'ai un message de la part de Dieu, de la part des gens qui a écrit, puis c'est un message de Dieu, puis là l'église est en train d'attendre, d'écouter ça, il dit, waouh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il dit Jésus par rapport à nous, non? Et là il s'attend à dire, mais tu es mort, pourtant tu t'y crois vivant. Mais continuons, c'est pas fini encore. Rappelle-toi donc, dit Jésus, et comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce que ils en sont dignes. Ça commence à avoir un peu d'espoir, hein? Un peu positif. Positif, c'est... Ainsi, il dit, la récompense, il y a toujours une récompense à la fin des épîtres, des lettres. Ainsi, le vainqueur se vêtira des vêtements blancs, je ne effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous des oreilles, mes frères et sœurs? Je pose toujours la question. Oui, moi aussi j'en ai. Et donc, il dit, écoutez ce que Jésus dit aux églises. Il dit, aux églises, hein? OK? Oui, c'est vrai, il écrit à chaque église, mais il dit aux églises. Et cela comprend nous aussi. OK? Donc, allons dans cette lettre adressée aux, comment on dit là, aux Sardiniens? Je ne sais pas comment. Aux Sardois? Non, pas des sardines. Je ne sais pas. À l'église des Sardes, c'est ça? On ne sait pas c'est quoi la signification de ce mot-là, Sardes. Il y en a qui disent lumière. Je ne sais pas d'où ça vient, l'étymologie de l'église, de la ville de Sardes. Donc, tantôt, je parlais un peu de Google Maps. Ça, c'est une photo de Google Maps, satellite, là. Donc, on voit un peu maintenant l'église. Peut-être qu'il y a des églises, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, là. OK, mais la ville antique de Sardes correspond au petit village maintenant moderne de Sarthe. Ça ressemble un peu, hein, encore en Turquie, à l'ouest du pays. OK, on voit quand même qu'il y a des champs. Vous voyez un peu, c'est quand même montagneux. Hein? Ça doit être beau, là, en tout cas. Encore là, je reviens sur ça. Mais il dit, ça c'est un survol un peu de la ville, là, OK, comment c'était dans le temps. On dit que il y a des forteresses qui ont été construites en haut, là, sur les falaises, vraiment. Puis c'est là que les gens protégeaient la ville, OK, dans l'Antiquité. Pas dans l'époque romaine, on va voir tantôt, là, mais dans l'Antiquité, il y avait des forteresses sur les falaises, là. Donc, cette ville était vraiment bien protégée. Vous voyez, là, c'est quand même haut, hein. Puis en haut, là, à un moment donné, ça, c'est une vue satellite, là. En haut, à un moment donné, on voit une tour, un peu comme une tour pour protéger la ville. Mais j'ai pas gardé la photo, j'aurais pu, mais en tout cas. La voie royale est connue, cette ville-là. La voie royale reliait Sardes à l'Empire perse. Ça s'en va jusqu'en Babylone, imaginez ça. C'est une ville dans l'Antiquité importante. C'est un centre commercial, politique et stratégique au monde antique. OK? Ça faisait à peu près 1600 kilomètres de Sardes jusqu'en Babylone. Imaginez ça. C'est long, hein? Je pense que les chemins sont meilleurs qu'ici à Montréal, hein? Il y a quelques nids de poules, là, mais ça c'est actuel, là, cette photo, là. Imaginez au début, là, c'est la roche, vous allez me dire, mais il n'y a pas de ciel, là, dans le temps. Oui, peut-être. Mais, en tous les cas, c'est connu, cette ville, là, dans l'Antiquité. Et c'est là, un peu à l'époque romaine, là, de l'Empire romain. Et c'est là, la ville s'est installée en bas. OK? Donc, à l'époque, la population s'installait dans la plaine, au pied de la colline, dans la vallée du Pactol, ou Pacton. Pactol, c'est un cours d'eau. Ça existe encore, mais c'est juste un cours d'eau maintenant. Célèbre d'avoir autrefois apporté de l'or. OK? Ce Pactol, sa signification, je crois que c'est riche, richesse, quelque chose comme ça. Donc, il apportait de l'or, symbole de la richesse légendaire de cette région de Sardes. Donc, la ville fut principale victime d'un tremblement des terres. OK? Dans l'année 17 de notre ère. Imaginez, là, l'année 17 de notre ère. Même un effondrement de la colline, là. Ça a l'air que c'était fort. Et pas seulement ces tremblements, ça a affecté Sardes, hein, ça a aussi affecté 12 autres villes. D'autres villes, même de ce qu'on lit dans l'Apocalypse, là. Mais la plus touchée, ça, c'était Sardes, OK? Et peu de vestiges ont survécu. Avec les excavations, avec le temps, on peut découvrir des choses qui ont existé dans le passé. Imaginez ça. Grâce à l'empereur Tibère, la ville est reconstruite rapidement et devient une cité commerciale prospère dans le temps de l'Apocalypse. OK? Donc, grâce à un empereur qui reconstruit la ville. D'ailleurs, on fait un monument pour lui, là. Un empereur pour l'adorer même. On sait que en 2014, avant Jésus-Christ, pardon, le temple d'Artémis, oui, c'est ça, un monument imposant. Le temple d'Artémis, il y en a partout, là, dans la Grèce antique. Et c'est le roi d'Antiochus III. C'est vraiment une structure majeure dans la ville. C'est juste des vestiges, hein. Imaginez comment ça a été dans le temps. On n'a pas vraiment une reconstruction. Mais c'est à peu près ça, là, c'était dans les années 2014. Avant Jésus. Donc, il dit que ce temple-là était deux fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. Je ne sais pas comment, mais c'était deux fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. Donc, Sardes abritait une communauté juive importante et influente, installée depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire la diaspora. Okay? Il y avait une communauté juive prospère. Okay? La plus grande synagogue de l'Asie mineure. Ça, là, c'est une synagogue. Okay? Mais ils disent que c'est la plus grande des synagogues dans, la, dans l'Asie mineure. Regardez un peu. Ça doit être beau voir ça aussi. Hein? Ça existe. En, ça, c'est les vestiges qu'il y a au fond. Là, on dirait qu'il y a des sièges au fond. En tous les cas, c'est à côté d'un... Aussi, ils disent c'est à côté d'un gymnase dans le temps. C'est grand aussi à côté de ce gymnase-là. Mais on a découvert cette grande synagogue. Une taille exceptionnelle qui pouvait contenir un millier de personnes. Waouh! Plus que ça, trois fois ici. Quatre fois, mettons, ici, là. C'était grand. Donc, on voit qu'il y avait une bonne communauté de Juifs qui s'était installée dans cette ville. Je vais revenir sur la richesse, riche grâce à la création des premières monnaies au monde même. Sardes est connue parce qu'on a créé les premières monnaies au monde. Vous voyez un peu, ça c'est, un, ça c'est des vraies photos. Des vraies, oui, c'est des vraies photos. C'est pas inventé ça. OK, c'est pas si rond que ce qu'on a maintenant, mais quand même pas pire. C'est des monnaies pour acheter. OK, donc Jésus le rappelle, frère, fier d'un passé glorieux. OK, vous voyez là, vous avez des du renom, il dit. Mais elle est spirituellement mourante, dit Jésus dans son. Donc, c'est bon de voir un peu l'histoire de la ville pour un peu nous situer. Et sachez que quand Jésus envoie ses messages aux églises, les gens sont bien concernés. OK? Et ils savent pourquoi Jésus est en train de leur dire ça. Vous savez, Jésus utilise beaucoup dans ses enseignements des quoi? Des paraboles et des choses. Ou des choses, des coutumes dans le temps, OK, pour donner un enseignement. Et dans ce cas, c'est pour donner un avertissement. Et les gens en Sardes étaient concernés, ils savaient de quoi Jésus y parlait. Donc, on va quand même le voir. Donc, l'oracle envoyé à Sardes est le plus bref, OK, c'est six versets. Hein? Et la semaine passée, c'était le plus long des messages envoyés aux églises. Là, c'est le plus... Bref, donc ça veut dire que c'est moins pire. Donc, mais les paroles que Jésus utilise sont quand même, sont les plus forts, je crois, qu'il utilise au niveau de tous les messages aux églises. Dans le verset 1, il dit, « Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que celui qui a les sept esprits et les sept étoiles, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et là, tu as leur renom. » À la fin, à la conclusion de cette étude, on va voir ces mots-là. Tu as le renom. C'est un mot utilisé. Okay? Quatre fois, ce terme « nom » est utilisé dans la lettre. Ça en dit quelque chose. Il envoie un message. Et on dirait que Jésus joue un peu avec ces mots-là. Okay? Il dit... Tu as le renom. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Si vous avez la Semeur ou si vous avez Français Courant, qu'est-ce que vous avez? Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. J'aimerais savoir si vous avez une autre version. Oui, José. Tu passes. Pardon? Tu passes pour être vivant. Ça nous donne une idée. Hein? Tu passes pour être vivant, ça veut dire quoi? Tu as une réputation, non? Tu crois d'être vivant, oui, tu passes. On dirait que les gens, tu passes d'être vivant, je comprends un peu, tu as une réputation pour être vivant, mais tu es mort. Okay? Et là, le vrai terme qui est utilisé, tu as un nom. Okay? On t'énomme vivant, mais tu es mort. C'est fort, hein? Se faire dire ça, mettons, quelqu'un vient ici, là, puis dans le temps, là, on est l'église des Rosemont. Et on voit, hein, on évangélise, on a nos cours, on chante et tout, mais là, quelqu'un vient dire, et t'as le nom d'être vivant. Tout le monde dit que, même à l'extérieur, dit, t'es vraiment dans la culture, t'es vraiment, comment je peux dire ça, là? Le monde m'échappe. Intéressé aux gens, du quartier, mettons, mais en réalité, tu es mort. C'est dur de se faire dire ça. Mais il y a une raison pourquoi Jésus dit ça à cette église-là. Jésus se présente comme celui qui a les sept esprits de Dieu c'est-à-dire l'Esprit de Dieu agissant au sein des églises. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas dit qu'il y a sept esprits là. Vous croyez qu'il y a sept esprits? Non, mais il parle des sept esprits parce que l'Esprit est présent dans les sept églises. Ici aussi, non? Donc, c'est une façon de parler que c'est vraiment l'Esprit de Dieu agissant au sein des églises. L'Esprit de Dieu est présent ici, à l'église de Rosemont. En nous, et nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc la maison de Dieu. Donc, il dit qu'il parle de cette sorte en disant que je suis présent. D'ailleurs, il a dit, je connais, il dit. C'est cet esprit lui permet de voir, okay, la réalité qui se cache derrière des apparences, comme on a dit tantôt. Okay? Je connais tes œuvres. Dieu connaît nos œuvres, comme Église. Et il connaît aussi, il nous connaît personnellement. Comme j'ai dit du terme nom, vous allez voir que c'est progressif aussi dans cette lettre, comment Jésus va jusqu'au bout, là, donner ce message à cette Église-là, que ça va toucher non seulement l'Église, mais personnellement, chacun. Chacun de nous aussi, même, aujourd'hui. Donc, je connais tes œuvres. Il tient aussi les sept étoiles sur lesquelles il exerce la supervision absolue par l'Esprit, ce qui sert à rassurer les petits, reste fidèle. Il parle d'un reste fidèle, qui est resté fidèle. Donc, il tient les sept étoiles. Je ne vais pas aller qu'on cherche parce que le temps passe vite, ok? Mais Ésaïe, ok? Je nomme ici Ésaïe 11, vous pouvez aller chercher dans vos Bibles si vous voulez, voir même la version que vous avez, mais je vais le lire selon la 8 secondes. Ésaïe 11, 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel, en parlant de qui ça? Du serviteur, de qui? Jésus, on le sait. L'Esprit reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, Esprit de conseil. On le voit ici dans la lettre? Oui, c'est Jésus lui-même. Esprit des conseils et de veillance, il dit. Esprit des connaissances et des craintes de l'Éternel. Zacharie, vous savez, c'est dans le temps où le temple allait être reconstruit. OK? Israël est revenu de l'exil avec plusieurs leaders. Qui retournait de l'exil? Vous vous rappelez? Néhémie? Qui d'autre? Esdras, j'aime Esdras, il est un gars qui était versé dans les Écritures. Il dit, waouh, ça prenait quelqu'un comme ça pour que le peuple revienne vers la parole de Dieu. Et qui avait d'autres? Zorobabel, c'était un prince, probablement, c'est de la lignée de David. Ok, Zorobabel. Et le prophète Zacharie écrit dans ce temps-là, il dit, il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, ce que je vois, c'est un chandelier tout en or. Vous voyez un peu les images là, de l'Ancien Testament? Ça fait des milliers, hein? des centaines d'années qu'il s'est écrit ça. Avec un vase, un sommet, portant sept lampes, ok? Et avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. C'est symbolique, hein? Un peu comme maintenant. Plus tard, dans le verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est tout. On utilise beaucoup ce verset pour nous-mêmes à l'Église, là, dans notre Église maintenant, avec la venue de Jésus. C'est par l'esprit. Mais le verset 12, il dit, qui donc a méprisé le jour des petits commencements, l'on se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces sept-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Waouh! Ces sept chandelles qui parlait tantôt, là, c'est les yeux de l'Éternel qui... Est-ce qu'on voit une parallèle avec ce qu'on est en train de lire? Oui, notre Dieu n'a pas changé. Jésus est Dieu lui-même qui voit les églises, qui surveille, qui veille pour son Église. Ça, c'est en concernant... Le verset 1. Mais, encore là, je reviens, le texte parle de la renommée. Okay? Tu as le renom, si on peut dire aussi tu as le nom. Littéralement, tu as le nom d'être vivant. Nous avons le privilège d'avoir plusieurs Bibles en français, plusieurs versions, c'est ça? Français courant, on a aussi quoi? Nouvelle Bible seconde, la seconde 21. Et quoi d'autre? Semeur, la semeur, c'est bon. Hein? Pardon? Merci, Tamara. En tout cas, j'ai dit à Tamara tantôt de mentionner Darby. Non, non, c'est pas réglé. Darby, et dans Darby, c'est reconnu pourquoi? La Bible de Darby, c'est reconnu pourquoi? C'est très littéral. Même des fois, quand il traduit, là, c'est, on dirait qu'il n'y a pas de sens, là. C'est bizarre ce qu'il dit. Mais c'est parce qu'il se veut être littéral, comme il est écrit, que ce soit de l'hébreu, que ce soit du grec. Okay? Il se veut littéral pour qu'on puisse savoir vraiment ce qui a été dit. Même si des fois, il sacrifie un peu le sens ou la logique, là. Mais c'est des Bibles qui nous servent un peu à voir qu'est-ce qui a vraiment été écrit. Pas parce qu'on n'a pas confiance aux Bibles que nous avons. On est privilégié et vraiment que nous avons maintenant, nous lisons la Bible Louis II, 1978, à la Colombe, qu'on appelle. C'est une révision de la Bible II, 1910. Donc, mais dans Darby, il dit que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Vous voyez, utilise vraiment le mot là, que tu as le nom de vivre, pas le renom, pas que tu passes pour être vivant, il dit le nom de vivre, mais tu es mort. Littéralement, tu as le nom d'être vivant. L'Église jouit donc d'une excellente réputation dans le temps, soit auprès de la société, et soit auprès d'autres églises même, et de la province. L'extérieur, peut-être, on voit l'extérieur, mais cela ne correspond pas du tout à son état réel. Donc, ici, le terme « nom » n'est qu'une façade, une réputation vide et flatteuse aux yeux des hommes et d'eux-mêmes même. Donc, le diagnostic de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Qui est omniscient et qui sait tout, je te connais, il dit. On dirait que le diagnostic tombe, il dit, tu es mort. Le jugement est radical. Cette Église ne manifeste aucune des qualités rencontrées chez les autres. Pas d'attachement authentique, il n'y a pas de mention de ça au Seigneur, pas de foi réelle, et pas d'amour même, il va mentionner l'amour, et pas d'attachement à la sainte doctrine non plus, aucun et comment je peux dire ça là, chose positive, si on peut dire. Pas des conduites conformes à la volonté de Dieu. Donc, cette évaluation glaciale, si on peut dire, de cette Église rappelle ce que Jésus dit aux religieux dans le temps de Matthieu 23, là, et 27 à 28. Je vais rapidement le lire. Dans Matthieu 23, 27 à 28, il dit, « Malheur à vous! » À qui est en train de dire ça aux pharisiens hypocrites? « Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis et qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. » Est-ce qu'on peut faire un parallèle à ce que Jésus mentionne, il dit ici, vous êtes morts? Ou non? C'est trop drastique de dire ça. À qui parlait Jésus dans ce temps-là, dans Matthieu? À qui parlait? Aux pharisiens. Et qui étaient ces pharisiens? C'était des juifs. Ils étaient censés faire quoi? Enseigner d'autres et vivre selon la loi, selon ce que Dieu avait prescrit. Est-ce qu'ils faisaient ça? C'était des hypocrites. C'est ça. Ça, c'est dans le temps, parce qu'ils étaient censés. Maintenant, Jésus parle aux chrétiens qui sont aussi censés déconnaître ces enseignements. On est rendu à la fin. Hein? L'Apocalypse a été écrit à peu près les années, on croit, 90 de notre ère. Donc, c'est vraiment la fin du temps apostolique même. OK? Donc, et puis, Jésus revient sur ce message-là. À qui il s'adresse? Il ne s'adresse pas aux pharisiens. Il ne s'adresse pas aux juifs. Il s'adresse à qui? Puis, on dirait qu'il s'adresse un peu de la même façon. Tu es mort. C'est des dures paroles. Le Seigneur considère la plupart comme des inconvertis, quasiment, dans cette Église-là. Le péché s'est introduit dans cette Église, a profondément affecté sa santé spirituelle. C'est ce qui fait le péché, en tout cas. Donc, l'Église des Sardes existait bien, mais vis-à-vis de Dieu, elle est morte. Ce qu'il dit, Éphésiens 5, 2, il dit, nous étions morts par nos fautes, dit Éphésiens. Nous étions morts. Qui ça? Nous. Avant de connaître. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a rendus à la vie par Christ. Mais nous étions morts. Et Jésus s'adresse à cette église comme étant mort. Donc, quelque part, il est en train de dire, peut-être, probablement ici, il y a des non-chrétiens où presque la majorité de vous n'a pas compris la grâce. Mais il ne faut pas se décourager. C'est une partie de ce message à l'église de Sardes, mais le message continue. Ça, c'est le on va aller verset par verset, OK? Jusqu'au verset 5. Verset 6, c'est juste la conclusion, là. Verset par verset. Verset 1, c'est bon? On a fait un survol rapide du verset 1. Allons verset 2. L'appel au réveil. Il y a des églises qui meurent. Est-ce que l'église va... Non, il ne faut pas confondre. L'église ne va jamais mourir, mais des églises locales peuvent mourir, malheureusement, à cause de l'influence. Sois vigilant, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est en train de mourir, il dit, à l'église, là. OK? Car je n'ai pas trouvé tes œuvres, encore là, hein, tes œuvres à l'église, parfaites devant mon Dieu. Ça, c'est Jésus qui dit. Sois vigilant, et pas seulement ça, affermis le reste, c'est-à-dire il y a quand même un reste. Sois vigilant, dit. Il s'agit d'une attitude indispensable à adopter pour se tenir prêt, OK, pour le retour du Seigneur Jésus. Pas seulement prêt pour le retour du Seigneur Jésus, veillez toujours. OK, cette église n'est pas prête, si on peut dire. Ils doivent se réveiller. Tantôt, j'ai parlé du café, là. Ils doivent se réveiller de leur sommeil spirituel. Prends garde, dit la version Semeur. Non, pardon, la Semeur dit, réveille-toi, il dit, carrément. Il dit, ici, il dit, sois vigilant dans nos traductions, là. Mais la Semeur, il traduit, réveille-toi. C'est quand même bon, hein? C'est réveillez-vous, là. OK? Donc, il doit se réveiller dans leur sommeil spirituel. Dans 1 Thessaloniciens, et pas Paul, il encourage cette église-là, surtout en ce qui concerne la venue du Seigneur, mais il les exhorte à être à veiller. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Hey, c'est bien cette comparaison. Vous êtes, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur, ça s'en vient, hein, ce qu'il va dire Jésus. Okay? Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. C'est bon, ce fils de lumière. Nous sommes fils de lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons pas donc comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Donc, réveillons-nous. Veillons et soyons sobres. Dans Matthieu 25, 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans Matthieu 25, 13. Et non seulement il dit, sois vigilant, il dit, affermis le reste. Jésus exhorte à l'Église d'affermir et le rendre plus solide. OK? Plus solide, une sincère repentance par un redoublement de zèle. Ce reste menacé. Carrément est en train de dire ça. Comment il pourrait rendre plus solide ces gens-là, les responsables de cette Église-là? Comment il pourrait les rendre plus solides? Oui, désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel de la parole de Dieu, c'est ça? Parce que Pierre exhorte aux chrétiens, donc, affermis le reste, rends-les plus solides. C'est sûr qu'il y a l'intervention du Saint-Esprit là-dessus, OK? C'est pas juste connaissance, pas juste apprenez les versets par cœur. Non, c'est vraiment que ça rentre dans le cœur. Et ça, c'est l'Esprit qui va faire cette œuvre-là dans les chrétiens. Donc, Jacques 5, 19, 20, il dit, mes frères, et ça là, c'est une affaire, oui, c'est vrai que c'est adressé aux responsables de l'Église. Hein? Mais nous, frères et sœurs, nous sommes responsables de veiller les uns les autres. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, ça, je crois qu'on peut l'appliquer aussi aux anciens, ok, s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Il sauvera une âme de la mort. Pour ceux qui lui, qui va le ramener sur la bonne voie. C'est bon, donc c'est une exhortation que Jacques aussi fait aux frères de, à qui il écrit. Affermis le reste. Donc, frères et sœurs, si nous voyons quelqu'un qui est en train de s'endormir, pas physiquement, pas littéralement, il y en a qui s'endort ici. Donc, allons vers notre frère et notre sœur la réveiller. OK? Ayons toujours un verre de glace, là, puis réveillons notre frère et notre sœur. Je dis symboliquement, mais c'est-à-dire, réveillons notre frère et notre sœur en l'encourageant à délaisser là. Une mauvaise enseignement. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, leurs œuvres ne sont pas accomplies. Le mot qui est utilisé là, parfaite, c'est comme le accompli, complète. OK, je n'ai pas trouvé tes œuvres complètes ou accomplies, finies, mettons. OK, c'est-à-dire qu'elles sont incomplètes aux yeux de Dieu, ces œuvres-là. Sardes est une église, donc, à demi-mesure. Un peu comme Jacques aussi exhorte aux chrétiens, hein? À demi-mesure. Et donc, Jésus n'accepte pas ça. OK? Tes œuvres ne sont pas parfaites. Ne sont pas des œuvres conformes. Même si en apparence, ce n'est pas des œuvres parfaites. Incomplètes. Pas accomplies. Donc, leurs actions ne sont pas satisfaisantes. Ils ne vont pas jusqu'au bout dans leur engagement. De leur amour ou du service. Ils ne supportent pas l'épreuve jusqu'au bout. On pourrait encore... Ils n'enseignent pas bien la vérité biblique. Ils se laissent influencer. On pourrait citer plusieurs exemples. C'est bon pour le verset 2? Verset 3 maintenant. Il y a une exhortation et un avertissement. Verset 3. Rappelez-toi, comment tu as reçu et entendu la parole. Il ne dit pas... Rappelle-toi comment tu es tombé. Ça, il dit ça à Éphèse. Hein? Mais là, il dit, rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Garde-la. Hey, d'autres choses. De un, rappelle-toi. Deux, garde-la. Et trois, répands-toi. Et là, l'avertissement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Est-ce qu'il parle de quoi? Ça, les avis sont partagés. Hein? D'après vous, il parle de quoi? Oui, de quoi il peut parler là, quand il dit, je reviendrai comme un voleur. Du retour de Jésus, est-ce que vous parlez qu'il parle, fait allusion au retour de Jésus? Parce que ça a l'air immédiat, hein? C'est-à-dire, si tu ne veilles pas, et donc, je vais agir. Je vais venir vers toi d'une façon inattendue. Est-ce que Jésus peut le faire? Je crois que oui. Mais je crois qu'il utilise le langage de la venue du Seigneur pour que nous puissions être dans cette façon de vivre, éveillé, veillons. Je crois qu'il utilise même ce langage de la venue du Seigneur, son retour. Mais nous sommes appelés à nous réveiller, mais, parce qu'il peut avoir des conséquences, mes frères et sœurs. Pour nous, si jamais nous ne marchons pas droit. Qu'est-ce qui, en Corinthiens 11, dit? Il y en a qui dorment. Il y en a qui dorment. Quoi? Il parle du repas du Seigneur, mais du mauvaise conduite. Des fois, Dieu il est sévère. Des fois, au début de l'Église, qu'est-ce qui est arrivé? Ananias et Saphira. C'est ça? J'ai la misère des fois avec les noms. Hein. Je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas dit Aquila, c'est. C'est ça. Ils sont morts. Priscilla et Aquila. Priscilla. Donc il dit réveille-toi. Il y a un avertissement. Donc rappelle-toi, revenir en arrière pour se souvenir de l'évangile proclamé. Plusieurs fois, Paul même fait mention de ça. Rappelez-vous comment vous avez reçu l'évangile. Et de la manière dont il l'avait saisi par la foi. C'est-à-dire, ça implique se soumettre à Dieu. Rappelle-toi, il dit. Garde, c'est-à-dire obéir. fidèlement, d'une manière cohérente et continue de ce message. Je vais revenir à la parole, en fait, reçue. Tantôt, j'ai parlé des Néhémie, vous vous rappelez, quand le peuple est revenu au Seigneur, puis le peuple pleurait. J'aime cette histoire-là. Et vous vous rappelez pourquoi ils sont revenus, pourquoi ils pleuraient? Oui, ils reconstruisent le temple, mais pourquoi ils ont pleuré? Il avait vu l'ancien temple, oui, mais il y a eu autre chose. J'ai parlé d'Esdras. Ils ont lu la loi des dieux pendant toute la journée, je crois. Mais il y avait des enfants même. Et les peuples pleuraient parce qu'ils se rappelaient de ces enseignements. Puis ils s'étaient détournés en lisant la parole de Dieu. Ils disent, garde, obéir. Et Jésus dit, allez, faites des disciples. OK, baptisez-les au nom de Jésus, du Fils, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à quoi? Observer, à garder mes commandements. Donc, garde, dis-y, encore là. Repends-toi. Un ordre catégorique exigeant une rupture, un changement drastique. Direction, immédiat. Donc, Jésus demande de revenir à la parole reçue initialement d'une manière comme il l'avait reçue, sans chercher à s'adapter même à la culture, afin de se laisser vivifier par l'Esprit. Parce que des fois, on peut faire les choses comme Éphèse, là, OK? Qui même, qu'est-ce qu'il a dit à Éphèse, là? Je suis content de toi parce que même tu rejettes le mauvais enseignement, il dit, hein, le faux docteur, là. OK? Mais j'ai contre toi que t'as quoi? Abandonné ton premier amour. Ça touche le cœur, là. OK? Comme quelqu'un a dit, le cœur du problème, c'est un problème de cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment le cœur. Comment on applique la parole de Dieu dans nos cœurs? Oui, on l'apprend par cœur, là. Moi, je joue beaucoup avec le mot cœur. On l'apprend par cœur, mais il faut que ça rentre dans nos cœurs. Et qui fait ça? Oui, c'est nous-mêmes. Nous nourrissons de la parole, mais c'est l'Esprit de Dieu aussi qui agit en nous. Toujours, sans oublier l'Esprit de Dieu. Et là, si tu ne veilles pas, je reviendrai comme un voleur. Est-ce que vous savez quand un voleur va arriver?
Non.
Non, sinon, on serait prêt. OK? Et si tu n'éveilles pas, il dit, si tu n'es pas réveillé, là, il dit, je viendrai comme un voleur. Donc, l'avertissement sans un réveil spirituel, les chrétiens de Sardes s'exposent en jugement divin soudain même. Donc, l'heure secrète, Jésus annonce une venue totalement imprévisible au moment où ils s'attendent le moins. Donc, pour cette église endormie, endormante, il ne faut pas confondre avec mon nom de famille, endormant. Et pour cette église endormie, sa venue risquait de les surprendre comme un intrus au milieu de la nuit. Et ce langage-là est utilisé à propos du retour de Christ, comme je disais, Matthieu, et il dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Un peu, ce langage est utilisé. Thessaloniciens, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, il dit, du Thessalonicien. Et de Pierre, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Encore là, cette image-là. Mais il parle de quelque chose qui va arriver bientôt, là. Comme on l'a vu avec Jézabel, là, je pense que ce qui est arrivé, il est arrivé pour vrai à Jézabel. Hein, parce qu'il dit, là, les autres verront. Après moi, c'est arrivé, là. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est arrivé. Donc, il y a une urgence du réveil. C'est pour ça qu'on fait du café ici, à tous les matins. La parole de Jésus à l'église des Sardes, sois vigilant et très à propos, OK? Puisque deux fois, au cours de l'histoire, cette ville imprenable, vous vous rappelez que je vous ai parlé de forts qui sont sur les collines, là, a été conquise parce que ses dirigeants se croyaient à l'abri, OK? Et allez lire l'histoire de cette ville-là. Il a été pris par surprise. Ils se sont rendus arrogants. Ils n'ont pas fait preuve de vigilance dans le passé. Donc, en 549 avant Jésus-Christ, le règne vous savez, le royaume, c'était le royaume des Lydies. Très, très, très connu à l'époque. Là. Et la ville a été prise par Cyrus. Cyrus, c'est un roi perse. On le voit dans l'Ancien Testament. Par surprise, parce qu'ils n'ont pas veillé. Même si, vous voyez, la ville était construite de façon très, sécuritaire, ils se sont fait surprendre. Deux fois dans l'histoire, 214 avant Jésus-Christ, il dit. Dans Antiochus 3, il dit, le royaume de Syrie, là on est dans un autre royaume, s'empare de la ville, presque de la même chose. Donc, quand les gens de Sardes, les chrétiens de Sardes, qui avant n'étaient pas des non-chrétiens, mais ils connaissent l'histoire, ils entendent ce message, donc ils savent de quoi Jésus est en train de parler. C'est vrai? Soyez vigilants. OK? C'est vrai que c'est un exemple séculier, là, comment ils ont été surpris dans l'Antiquité, mais encore là, ça s'applique spirituellement. Soyez vigilants, sinon je vais venir, il dit. Je vais venir. Verset 4. Le petit reste aux vêtements purs. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce que ils en sont dignes. Toutefois, la version Darby, OK? Juste pour... Toutefois, tu as quelques noms. Encore là, le mot, vous voyez, le terme utilisé par Jésus, OK, le terme nom, à Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Toutefois, il dit, tu as quelques noms. Et dans nos... Lui, second, le traduit par quelques hommes. Et c'est correct, là, quelques hommes. Mais quelques noms, c'est plus par rapport à ce que Jésus est en train de dire. Il utilise le même mot. Quelques noms, à Sardes, n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc, verset 1, le nom n'était qu'une illusion, OK? Une fausse réputation, dans le verset 1, le terme nom, OK? Et dans le verset 4, maintenant, le sens change complètement ici. Quelques noms désignent les vraies personnes, OK? Même qui, de façon positive, qui ont gardé. Donc, le regard, on voit ici le regard de Jésus. Il connaît chacune de ses brebis, OK? Personnellement, par son non, j'ai quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et c'est souci profondément de chaque chrétien en particulier. C'est bon l'image, en tout cas, de ce qu'il est en train de dire Jésus à cette église-là. Donc, leur intégrité est préservée, il dit. Ne pas avoir souillé ses vêtements signifie avoir refusé le compromis moral, l'impureté rituelle dans ce milieu-là, et, païen. Ces corporations idolâtres, on en parlait beaucoup des corporations dans le temps. Okay, il n'y a pas de compromis. Dans Apocalypse 16, 15, il dit, voici, je viens comme un voleur. Eh? Encore là, plus loin dans Apocalypse 16, 15, il dit, comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est clair, ça. Heureux celui qui garde ses vêtements. En quelque sorte, garde ses vêtements blancs, si on peut dire. Donc, Ésaïe 64, 5, nous sommes tous devenus comme un objet impur. Ça, c'est le contraire. C'est le contraire de ceux qui n'ont pas gardé, ils ont souillé leurs vêtements. Ça fait écho à ce qu'Ésaïe écrit. Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement souillé, pollu. Mais dans Apocalypse 7, 14, il dit, ils ont lavé leur robe, OK, leur vêtement, et ils l'ont blanchi, hein, de vêtements blancs. Mais ce qui est étonnant ici, ils ont blanchi leur vêtement par quoi? Dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu peux blanchir un vêtement dans le sang? Non, mais c'est une image. Pourquoi? Parce qu'il parle de pureté, OK, sanctification. Mais c'est quand même, quelqu'un qui lit ça... Mais ils ont vraiment blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. À cause du pardon, on a été purifiés. Donc, c'est ça que l'intégrité de ces gens-là, à l'église de Sardes, qui ont gardé. Et ils disent, ils marcheront avec moi. Ça, c'est bon, cette image-là. Et en vêtements blancs. Marcher avec Christ, c'est une métaphore de communion intime, éternelle avec Jésus. Pardon, une communauté éternelle dans la nouvelle création, dans la nouvelle vie. On l'a vu la semaine passée avec les baptêmes, là. Les blancs, le blanc symbolise la sainteté et la justice, parce qu'ils s'en sont dignes. Et encore là, on pourrait, c'est peut-être les bretelles, okay. Je garde ces commandements, j'en suis digne. On peut dire ça? Des fois, il y en a qui n'aiment pas ça, hein? Dire, ah ben, je suis digne que d'être appelé enfant de Dieu. En réalité, Oui, cette dignité vient là, mais ce n'est pas une mérite humain là, mais un statut de justice. Il nous a déclaré juste, accordé gratuitement par le sacrifice, c'est-à-dire par grâce, pour ceux qui reflètent, honorent dans leur conduite quotidienne le nom de Jésus, le nom de Jésus, parce qu'ils en sont dignes. Donc leur conduite pratique n'est pas la cause de leur salut, mais la preuve, si on peut dire, de leur salut. C'est pour ça que Jésus déclare, et pas n'importe qui déclare, c'est Jésus qui déclare, ils en sont dignes d'être mes enfants, de marcher avec moi. C'est pas beau ça, comme je dis souvent? Oui, c'est beau, et c'est par grâce. Verset 5. Les trois promesses solennelles. Je vais aller vite, ok, désolé. Au vainqueur. Verset 5, il dit, ainsi au vainqueur se vêtira. Encore là, il revient avec ça. Hein? Il fait suite à ce qu'il vient de dire. Il se vêtira, il sera vêtu. Il y a d'autres versions, et j'aime mieux la version, il sera vêtu, parce qu'en fait, qui fait ça? Oui, c'est, en quelque sorte, nous, on va le voir dans un verset, là. Nous revêtons Christ, ok? Nous. Oui, parce que nos efforts pour plaire à Dieu. Mais qui le fait? C'est Dieu lui-même, dans sa grâce, okay, par le Saint-Esprit. Donc, au vainqueur se vêtira des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Le vêtement blanc maintenant. Jésus enveloppera le vainqueur de propre pureté. Là. Le verbe grec indique l'action vient de Dieu. Okay? C'est lui qui purifie l'être humain du péché pour le rendre apte dans sa présence. Je pense que nous sommes tous d'accord avec ça, que Dieu fait ça enfin. Ésaïe 61, 10, je me réjouirai, et ça nous donne une idée hein, de ce qu'il est en train de dire. Ésaïe 61, 10, il dit, je me réjouirai pleinement en l'Éternel, mon âme se ravit d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. On pourrait dire aussi pour nous, là, des vêtements blancs. Okay? Parce que nous marchons selon ses voies. Il y a aussi la sécurité éternelle. Jésus mentionne, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. Qu'est-ce que signifie cela? Parce que ça peut porter à confusion. Hein? Est-ce que là, il y a beaucoup des choses qui ont surgi à cause de ça, parce qu'il dit, bon, mais le salut peut se perdre, parce que Jésus peut effacer le nom. Il dit, hein? Parce que logiquement, on pourrait dire, bon, ça veut dire que Jésus peut effacer. Et attends, mais on n'est pas sauvé. Et je le ravirai. Personne ne le ravira de ma main. Comment ça se fait qu'il peut effacer? Il peut effacer des vrais chrétiens? Je crois que non, ça contredirait. On pourrait développer beaucoup, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais cela, ce qui signifie, il ne s'agit pas d'une prédestination conditionnelle, ok? Ni d'une menace d'exécution des vrais croyants. C'est une certitude absolue. Au contraire, cette formulation négative sert à affirmer avec plus grande force possible une certitude absolue. Le vainqueur est en sécurité éternelle. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. Vous savez, la semeur encore traduit, c'est là parce qu'il y a une double négation dans ce texte-là. Il dit, je n'effacerai jamais, il rajoute, je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Ça nous donne un peu plus une idée de ce qu'il est en train de dire. Et c'est unique dans le Nouveau Testament, cette façon d'écrire la négation, une négation double. Je n'effacerai jamais le nom du livre de la vie. Jésus mentionne, l'Apocalypse identifie un unique livre de vie de l'agneau où les noms sont scellés dès la fondation du monde. Signe de l'élection souveraine basée sur la grâce et le sang versé et non sur le mérite. Donc, Apocalypse, on ne peut pas lire, mais là, je vais le lire. 13:8, il dit, et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, et c'est donc le nom n'a pas été écrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si notre nom est écrit de la fondation du monde, comment ça se fait que ça va être enlevé? Non, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont été sauvés, leurs noms sont écrits depuis là. Et c'est même l'Apocalypse qui dit ça. 21-27 aussi, il dit, il n'y entrera rien de souillé, ok? ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et encore là, depuis la fondation du monde. On pourrait lire d'autres versets, je n'ai pas le temps de lire d'autres versets qui sont écrits dans le Nouveau Testament par rapport à Philippiens, et Paul y en parle, aussi les noms sont dans le livre de vie. Paul y en parle, dans Luc aussi, Jésus même dit, « Réjouissez-vous de que vos noms sont écrits dans les cieux. » c'est aussi en parlant de ce livre de vie. C'est bon? Donc alors, passons maintenant à la confession publique de vainqueur. « Je confesserai mon nom, leur nom devant mon Père. » Le Seigneur nomme les anges à côté de son Père, parce qu'ils font partie de la Jérusalem céleste. Dans Hébreux 22-23, nous lisons, « Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité des dieux vivants. » Là, il parle de la Nouvelle Jérusalem céleste, les myriades des anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits. Donc, c'est pour ça qu'il dit, « Je confesserai vos noms devant Dieu et devant les anges. » Donc, Jésus réaffirme une promesse qu'il a faite durant son ministère terrestre. C'est pourquoi quiconque me confesse devant les hommes, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et Luc va un peu plus clair. Luc 12, 18, la même chose, mais il dit, je confesserai aussi devant les anges de Dieu. Vous voyez, ça complète, c'est ce qu'il dit dans... On va prendre 2 minutes de plus, ok? Désolé. Je finis avec ça. L'utilisation, je reviens à ce parcours là, du terme « non ». Okay. Dans ce passage-là, Jésus utilise un seul mot, un mot là, qui dit un terme « non » pour lancer un avertissement solennel et offrir une promesse magnifique. En observant les 4 fois où ce mot apparaît, on découvre un chemin théologique qui nous fait passer de l'illusion humaine à la sécurité éternelle. C'est beau ce que Jésus fait dans cette lettre-là. Réputation, verset 1, Jésus commence par un diagnostic sévère. Tu as le nom d'être vivant, mais tu es mort. Ici, le nom désigne une réputation. L'individu, verset 4, le regard du bon verger, le sang change complètement lorsque Jésus dit, tu as quelques noms à ça, c'est-à-dire qui ont gardé, et ont survécu face au naufrage spirituel de toute l'Église. Verset 5, sécurité. Et on l'a vu tantôt, Jésus promet, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Il ne s'agit pas d'une menace d'un salut que l'on peut perdre au moindre faux pas. Au contraire, c'est une garantie absolue. On l'a vu tantôt. Encore dans le verset 5, la confession publique des vainqueurs, le message culmine avec cette promesse céleste. Je confesserai son nom devant... N'est-ce pas merveilleux ça, mes frères et sœurs? Je vais confesser leur nom devant mon Père et les anges. Et la portée universelle. Verset 6, si on finit par ça. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit, Dieu, aux églises. Cette formule classique universalise la portée de ce texte-là, écrit-là. L'avertissement et les promesses données à l'église des Sardes s'appliquent de manière intemporelle aussi à toutes les églises. Donc, le message de Jésus aujourd'hui est de se rappeler, de se repentir et d'obéir, tout comme l'église des Sardes. Finissons par ces passages, ces beaux passages que Paul écrit à l'épître aux Romains, à l'église à Rome. Il dit, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes en quel temps? Le dernier, c'est ça? C'est l'heure de vous réveiller, enfin, du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. C'est vrai ça? C'est vrai ça. Le jour avance, on est plus près du jour du salut. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de lumière, des vêtements blancs. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boissons, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie, mais revêtez-vous encore du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'est-ce pas beau ces messages-là de Paul aussi qui rejoint vraiment le message à l'église des Sardes, encore là? Ça rejoint ce message. Revêtez-vous de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Qui est en train de dire, revêtez-vous des vêtements blancs aussi. Marchez droit devant Dieu. C'est le message de à Sardes, et c'est le message aussi pour nous aujourd'hui. Quelqu'un qui peut prier ?